Bonsoir à tous, bienvenue à Super Public. Je m'appelle Stéphane Vincent et je dirige une association qui porte le nom étrange de 27e région. Je ne vous en parlerai pas ce soir, on n'aura pas le temps. Je suis un des animateurs de ce lieu qui porte un nom tout aussi étrange, qui s'appelle Super Public. En fait, on a ouvert ce lieu en 2014. Des tiers-lieux, vous en connaissez des centaines, des milliers à Paris, en France et partout. Mais c'était le premier lieu consacré exclusivement aux questions d'innovation dans le secteur public et de transformation du secteur public. Et donc, on est un peu aux premières loges cette semaine, puisque vous le savez sans doute, on est au deuxième jour de la semaine de l'innovation publique. Troisième édition, quatrième édition, Simon ? Quatrième, c'est ça, hein, c'est la quatrième. Donc, les événements s'enchaînent. On quitte tout à l'heure, on avait une petite rencontre avec des laboratoires d'innovation publique de Washington, Stockholm, etc. Et là, on est tous ensemble réunis autour de l'ouvrage de Jacques Priol sur Big Data et collectivité. Le déroulement va être le suivant. Jacques a proposé de faire une présentation de son ouvrage et de son propos en 40-45 minutes. Est-ce que tu souhaites qu'à ce stade, on pose déjà des questions ou on passe directement au débat ? On verra. On verra. Ça me paraît bien, ça, on verra. Ensuite, on passera au débat. On aura, comme je sais que Jacques est pile poil dans les temps, on aura nos 50 minutes, un peu plus de débat. Je vous présenterai nos intervenants. On aura des thèmes et ça sera super interactif. Jacques, à toi de jouer. Tu nous dis qui tu es ? Alors, je précise que cette séquence est enregistrée. Donc, pour vos amis qui n'ont pas pu venir et qui pleurent chez eux, ils vont pouvoir réécouter toutes nos bêtises et faire du fact-checking après cette intervention. Bonne question. On le mettra sur le nôtre et puis sur le tien. Je pense qu'on pourra le mettre, à condition que ça soit qualitatif, mais ça va l'être. On fera des coupes. Voilà, à condition de bien parler dans le micro, en revanche. À toi, Jacques.
Bien, merci Stéphane, merci de m'accueillir ici. Merci à celles et ceux qui prendront part au débat tout à l'heure. Du coup, je les salue sans donner leur nom, puisque tu as décidé de réserver la surprise et de les présenter tout à l'heure. Et je vais commencer par un petit mot sur ce bouquin qui va me donner l'occasion de me présenter à vous. Pourquoi ce livre ? Il se trouve que j'ai travaillé pendant 25 ans dans les collectivités locales, dans différentes fonctions, et que j'ai souvent eu le sentiment, dans ces responsabilités, dans le cadre, j'ai dirigé un office HLM, j'ai travaillé en mairie, en département, en région, le sentiment de vivre d'assez près avec les dirigeants territoriaux, avec les élus qui dirigent ces collectivités, quelque chose qu'on m'avait appris à l'école, dans une formation de management public, qui était le fait que l'on prenait souvent des décisions en rationalité limitée. Et cette idée, ce sentiment que dans les collectivités publiques, bien souvent, dans le feu de l'action, dans l'urgence des réponses à apporter aux citoyens, dans parfois aussi le maelstrom lié au processus démocratique, au renouvellement des élus, on est amené à prendre des décisions, à construire des politiques, parfois à les mettre en œuvre en rationalité limitée. Et qu'il arrive aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas à l'époque où j'étais à l'école, qui n'existait peut-être pas il y a 15 ans, pas il y a 10 ans, mais qui existe peut-être depuis 4 ou 5 ans, c'est l'arrivée de données de plus en plus massives à disposition de celles et ceux qui construisent les politiques, qui les mettent en œuvre, qui les évaluent ensuite. Des données qui n'existaient pas, des données qui sont traitées par des moyens et des outils dont on va parler ce soir, qui n'étaient pas à notre disposition, ou alors qui étaient réservées à des dispositifs très particuliers nécessitant des moyens colossaux. Et puis des acteurs qui n'existaient pas, et je pense notamment à toutes celles et ceux qui aujourd'hui diffusent ces nouveaux usages de la donnée, des startups bien sûr, mais bien d'autres aussi, qui pour la plupart d'entre eux sont jeunes. Et si je caricature un petit peu mon propos, il y a 4 ou 5 ans, les données dont on va parler ce soir, elles n'étaient pas à disposition des acteurs publics, elles le sont aujourd'hui. Les outils et les moyens n'étaient pas accessibles, et celles et ceux qui les font vivre aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, étaient à l'école. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on va parler de big data dans les collectivités locales ? Aujourd'hui, les données à la disposition des décideurs publics, elles sont de plusieurs natures. Il y a d'abord les données internes, celles que les acteurs produisent pour leur propre gestion, avec une question dont on parlera tout à l'heure, bien sûr, c'est que ces données internes, certaines d'entre elles ont vocation à être rendues publiques. C'est l'open data, on s'y arrêtera. Il y a aussi toutes les données d'un territoire. Quand on est dans une mairie, dans un département, dans une région, il y a une masse colossales de données qui caractérisent ce territoire, qui vont être produites par d'autres communes, par des agences diverses, par des délégataires de services publics, par des agences consulaires, par l'INSEE, par l'État. Toutes ces données, c'est ce que, de façon un petit peu rapide, dans un premier temps, on va appeler le big data du territoire, l'ensemble des données qui caractérisent la vie d'un territoire et qui sont dans l'environnement immédiat des décideurs publics. Après, il y a l'ensemble de nos données à nous, nous, habitants d'un territoire, nous, usagers du service public, citoyens, les données personnelles de celles et ceux qui bénéficient d'une aide, d'un droit, d'un accès, les données des enfants qui mangent à la cantine, etc. Et puis, le panorama ne serait pas complet sans citer une quatrième type de données, parce qu'on parle de collectivités locales avec les élus. Ce sont les données électorales qui, elles aussi, ont connu ces dernières années de sérieux chambardements sur lesquels je vais revenir et qui font que nous avons aujourd'hui, dans ces quatre domaines, des volumes de données tout à fait massives qui sont accessibles et qui forment un tout. Face à cette situation, donc je reviens un tout petit peu sur la présentation de pourquoi ce livre et de mon propre parcours. Après 25 ans en collectivité locale, j'ai choisi de créer une entreprise qui est une entreprise de conseil que je qualifie moi de pure player sur le sujet, que je résume en une phrase, de la place de la donnée dans la décision publique. Et à travers ce schéma, vous avez d'une certaine manière le périmètre d'action de la société que j'anime aujourd'hui, qui est basée à Nantes, qui s'appelle Civitéo. Et c'est aussi sur l'ensemble de ces quatre dimensions que j'ai écrit donc, ce livre, le Big Data des territoires, qui est sous-titré. Alors, vous savez comment ça se passe quand on écrit un livre, le titre, les sous-titres, les titres de chapitres, c'est l'éditeur qui décide. Le Big Data des territoires, Open Data, protection des données, Smart City, Civic Tech, services publics, les nouvelles stratégies de la donnée au service de l'intérêt général. Ça, par contre, c'est de moi. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir par quel bout on attrape tous ces sujets-là. Alors, par quel bout on attrape tous ces sujets-là ? Dans un contexte que j'ai appelé « data-friendly », surtout pour l'éditeur. Quand j'ai été voir l'éditeur avec le projet, il s'est dit « il se passe des choses en ce moment sur la donnée pour les services publics locaux. C'est bien de sortir ce bouquin parce qu'il y a des outils nouveaux. On va parler de big data, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Je vais y revenir très rapidement et plus en détail si vous le souhaitez. Puis dans celles et ceux qui prendront la parole tout à l'heure, il y a des spécialistes. » Et puis surtout, une actualité juridique qui est celle de l'année qui arrive, de l'année 2018, avec deux évolutions extrêmement importantes. La mise en œuvre de la loi pour une république numérique, on va y revenir dans le détail, et la mise en œuvre d'un nouveau cadre de référence pour la protection des données personnelles. Donc une actu, une analyse un petit peu globale de ces évolutions qui nous amène à proposer l'écriture de ce bouquin. Et pour vous en parler de ce livre, je vais commencer par un petit peu de théorie. Alors en m'excusant s'il y a dans la salle des spécialistes du big data, des spécialistes de l'algorithmie, mais je vais quand même faire un petit tour d'horizon rapide pour poser un petit peu le décor. Le big data, de quoi est-ce qu'on parle quand on est sur ce sujet-là ? On comprend que c'est big, c'est des données massives, ce qui est probablement la traduction la plus élégante. Le volume des données stockées dans le monde double tous les 2 ans. Vous trouverez ça dans toute la littérature sur le big data. C'est une estimation globale, mondiale, qui est en vigueur depuis des années. Mais alors, puisqu'on parle de la gestion des territoires, voici une autre évaluation. Alors, un peu plus complexe, accrochez-vous. En 2020, le volume des données produites en une seule journée pour la gestion des villes européennes sera 4 fois supérieur à celui des données produites pour toute l'année 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la gestion des territoires, la gestion urbaine, la gestion des villes, on est en train d'évoluer vers des systèmes de plus en plus gouvernés par la donnée, avec de la collecte de la donnée. On peut penser aux capteurs nombreux, aux objets connectés qui régissent de plus en plus ce qu'on va appeler la Smart City. On en parlera aussi très brièvement tout à l'heure. Et on est en train de se retrouver face à un volume de données consacré à la gestion publique qui est absolument colossal et qui est exponentiel. Et nous en sommes au tout début. Alors le big data, quand on pense à des données massives, on pense aussi à Internet. J'en profite simplement pour un tout petit regard, vous dire que quand on parle d'Internet, souvent on pense à Internet ce que l'on peut trouver via Google. Or, cette partie-là d'Internet, c'est ce qu'on appelle le web indexé, ne représente que 4% de l'ensemble de ce qui est aujourd'hui sur le réseau. On a 80% qui représente ce qu'on appelle le web profond, qui est en fait des intranets, des réseaux pas accessibles, des réseaux protégés, notamment par rapport à des espaces privés. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le dark web. Je passe rapidement. Vous voyez de quoi il s'agit, dont on dit qu'il ferait 16%, mais par définition, on ne sait pas combien il fait puisqu'il n'est pas connu. Quand on parle du big data, on parle aussi d'une règle. Alors, c'est tout à fait caricatural mais en même temps, et basique, mais en même temps, c'est dans tous les bouquins sur le big data, ce qu'on appelle la règle des 3 V. Parce que quand on dit le big data, on pense d'abord big, du volume, Mais pour parler véritablement de big data, il faut aussi qu'il y ait de la variété. Des longues séries de données identiques, si on parle de la gestion des grandes données statistiques sur la population d'un territoire, ça peut permettre de faire des statistiques en termes de, par exemple, d'âge, d'évolution démographique. Ce sont des données démographiques, ça fait du volume. Mais si on veut faire du big data, il faut les croiser avec des données d'une autre nature. Et si on commence à croiser des données démographiques en très grand volume avec des données, par exemple, liées à l'activité économique en très grand volume, on rentre dans des traitements que l'on va appeler de big data, volume, variété et vélocité, c'est-à-dire des données qui se mettent à jour régulièrement. Dans toute la littérature sur le sujet, vous allez trouver ça. Et ça, ça fait le big data. Alors, certains vont rajouter d'autres V. Il y a le V, quatrième V, la véracité, s'assurer que ce soit des données qui soient justes. Un cinquième V qui va être la valeur, s'assurer que ce soit des données qui aient une certaine valeur. On peut monter jusqu'à 5, 6, 7, 8. Mais en tout cas, si vous avez en tête ces trois V, vous êtes sûr de ne pas vous planter sur ce que l'on appelle véritablement le big data. Au passage, le mot est apparu dans les dictionnaires en 2010. C'est tout récent. Aujourd'hui, les big data, on a l'impression que c'est quelque chose tout à fait rentré dans le langage courant. Il est apparu dans les dictionnaires qu'en 2010. Et ceux qui en ont inventé le concept et la manière de manipuler ces données massives travaillaient dessus simplement depuis 6 ou 7 ans. Alors, des données massives et des algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme ? C'est une suite d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Les algorithmes, ça existe depuis très longtemps. Dans tous les ouvrages de mathématiques, dans tous les enseignements de mathématiques, ça existe depuis, et puis pas que de mathématiques d'ailleurs, ça existe depuis très longtemps. Ce qui est le plus souvent, ce sont des opérations bien connues. C'est-à-dire que les algorithmes dont on parle, quand on parle de big data, font des statistiques, font des probabilités avec des règles qui existent aussi depuis très longtemps. Ils utilisent des règles de corrélation. Par contre, ce qui change, ce qui est nouveau, c'est qu'on travaille aujourd'hui dans des volumes tout à fait inédits, avec une vitesse, des puissances de calcul tout à fait inédites, pour des résultats qui sont tout à fait inédits. On va prendre des volumes de données absolument gigantesques. Ce qui m'amène à vous parler très rapidement au passage d'un joli mot qui est utilisé par les spécialistes du big data, qui est celui de la sérendipité, qui est le fait de réaliser une découverte de façon inattendue à la suite d'un concours de circonstances. Exemple type de sérendipité, l'invention du post-it par des chercheurs qui travaillaient sur de la colle forte. Eh bien, en matière de big data, lorsqu'on brasse des volumes de données absolument massifs, avec des algorithmes qui tournent très vite, on va chercher des motifs, des manières d'analyser et de comprendre les choses qui peuvent être différents de ceux que l'on avait imaginés au départ. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de ces questions-là. Vous trouverez beaucoup de littérature professionnelle sur le fait que c'est le big data, la data, c'est le nouveau pétrole, c'est l'or noir des entreprises. La métaphore se décline, hein, l'exploration de données, l'extraction de données, les données brutes, les données raffinées, le stockage de données. Vous avez beaucoup de magazines, en voici une qui est assez récente. Moi, je rajouterais dans la métaphore que on parle aussi du carburant de la Smart City. Et puis, puisqu'on parle de pétrole, je rajouterai qu'il y a aussi parfois des marées noires, des fuites de données. Et c'est l'un des sujets qui peut mériter toute notre attention en termes de protection des données, tout particulièrement. Alors, à quoi ça sert ? Le premier usage du big data, c'est d'analyser, comprendre, et comme on le fait sur des volumes extrêmement importants, ensuite prédire les comportements humains. Et le premier usage qui nous vient immédiatement en tête, et les inventeurs de ces processus de stockage et de traitement de données absolument colossales étaient à l'origine dans ce type de développement, et Google est de fait l'inventeur du big data, en tout cas des technologies, les pionnières du big data. On peut parler d'Amazon. Le premier objectif en termes d'analyse, de compréhension, puis de prédiction des comportements humains, et celui qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est bien d'analyser, comprendre et prédire les comportements des consommateurs. Soit pour leur proposer de la publicité, soit pour leur proposer des achats. Je ne rentre pas dans le détail, s'il y a des questions, on pourra le faire. On peut aussi trouver ce type de fonctionnement. Je cite là Deezer et Spotify sur les comportements, sur les goûts, les attentes que les uns et les autres vont avoir en matière de musique. On pourrait détailler et notamment voir comment, lorsqu'on a un compte Deezer et qu'on le prête à un petit cousin qui écoute du rap alors qu'on est soi-même amateur de musique baroque, l'algorithme se dérègle et n'est plus en capacité de nous proposer les choses que nous attendions et qu'il faisait très bien jusque-là. Mais le big data, ça sert aussi à analyser, comprendre, prédire le monde dans sa globalité, pas qu'à faire du business et du commerce. Un exemple toujours très intéressant à citer, c'est celui de la météo. Aujourd'hui, il nous apparaît tout à fait normal et banal d'avoir des prévisions météo à 10 jours. Il nous paraît tout à fait normal que, quel que soit l'endroit où on se déplace, on puisse, par une application, savoir s'il y a l'annonce de la pluie d'ici une heure ou pas. Il y a 10 ans, ce n'était absolument pas le cas. Il y a 20 ans, les présentateurs de la météo rigolaient eux-mêmes de leurs propres annonces sur les radios et sur les télévisions. Il y a 30 ans, on avait même une grenouille sur un plateau de télé qui montait son échelle ou pas. L'évolution de la météo, c'est du big data, je caricature un petit peu, mais c'est le fait d'avoir brassé des données de plus en plus importantes, d'avoir pu stocker des données de plus en plus importantes avec des algorithmes de plus en plus puissants, des ordinateurs qui auparavant prenaient des salles et des salles de serveurs grandes comme la pièce ici qui aujourd'hui sont dans des capacités beaucoup plus réduites, enfin pardon, des volumes beaucoup plus réduits, qui permettent d'anticiper, de prédire, de corréler les prédictions avec les réalisations qui ont été observées, avec les mesures qui ont été faites, de corriger du coup le modèle prédictif. On rentre là dans les mécanismes qui sont ceux de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant de voir que tout cela est somme toute très récent. On a aussi des choses absolument extraordinaires en matière de recherche médicale. Pour faire simple, ce que le big data permet en la matière, c'est que là où traditionnellement la recherche se fait avec des échantillons de population, avec des cohortes de malades, vous connaissez tous le phénomène, on prend des malades avec un traitement, les autres ont un placebo, on les suit sur plusieurs années, on compare les effets, etc. Aujourd'hui, le big data fonctionne, ça nous permet de fonctionner de façon tout à fait différente. En un mot, pour que vous compreniez bien, et après on passe directement sur le big data appliqué au secteur public, nous sommes tous formés par l'école, mais aussi parce que notre cerveau peut en appréhender les mécanismes à l'idée simple que quand on veut étudier quelque chose d'absolument massif, il faut prendre un échantillon. On peut en connaître les formules mathématiques ou en avoir simplement l'intuition. Nous savons que si on a un échantillon qui démontre quelque chose, on va prendre un sondage, ça peut être vrai pour du commercial ou un sondage politique, on parlera tout à l'heure de big data électoral. Sur un sondage politique, on prend 1000 personnes et on sait qu'il y a une marge d'erreur quand on va faire l'extrapolation. On sait intuitivement que plus l'échantillon est grand, moins la marge d'erreur sera importante. Plus l'échantillon est représentatif, plus le résultat sera valable. Avec le big data, on ne fait plus ça. Parce qu'on prend l'ensemble des données sur l'ensemble de la population concernée. Et c'est ce qui, en matière de recherche médicale, est en train de bouleverser la manière dont les choses se passent. En matière d'analyse électorale, j'y reviendrai tout à l'heure, rapidement. Alors, les enjeux publics de ces évolutions. Ils sont multiples. Il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques au sens large du terme, ou au sens électoral du terme, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux de management du service public. Les enjeux juridiques, d'abord. Il y a cette loi pour une république numérique qui date d'octobre 2016, que je vais résumer très rapidement. C'est d'abord l'idée que, alors qu'en France, depuis 2010, on a 170-180 collectivités locales qui ont fait le choix politique d'ouvrir leurs données, de donner à voir sur des sites internet leurs réalisations et leur processus de décision, dans une logique de transparence, dans une logique de développement, dans une logique de réutilisation. Eh bien, cette loi, elle impose à toutes les collectivités de plus de 3500 habitants l'open data par défaut. Elles sont supposées toutes ouvrir leurs données d'ici octobre 2018. Je dis elles sont supposées, c'est ce que prévoit la loi. La loi ne prévoit pour autant pas de sanctions, mais c'est un sujet sur lequel on pourra revenir également, qui est important à avoir en tête dans le paysage. Cette loi, elle prévoit la transparence des algorithmes, on y reviendra aussi. Il y a l'exemple d'APB dont tout le monde a entendu parler. Mais c'est l'idée qu'un acteur public qui utilise des algorithmes pour prendre des décisions et préparer des décisions publiques doit le faire en transparence, je vais y revenir. Il n'y a pas que l'ouverture des données des collectivités en tant que telles. Il y a l'ouverture des données des délégataires de services publics, ou en tout cas l'obligation pour les délégataires de services publics. Et une part importante de la gestion de nos territoires est aujourd'hui assurée par des grandes entreprises qui agissent pour le compte du service public, qui vont devoir restituer aux collectivités les données qui sont collectées, gérées et qui établissent la manière dont ils remplissent cette mission de service public, même si eux-mêmes sont des entreprises privées. Il y a une notion très importante dans cette loi, c'est la notion de données d'intérêt général. C'est l'idée que pour bien gérer un territoire, pour bien gouverner une ville, un département, une région, eh bien, il y a tout un tas de données qui sont aujourd'hui produites par des acteurs de statut différents qui peuvent être utiles. Je vais prendre un exemple que vous connaissez. Quand Airbnb prend la place d'un certain nombre d'opérateurs traditionnels du tourisme pour faire de la location et gérer les flux touristiques sur un territoire, il est important pour celles et ceux qui gèrent les infrastructures de ce territoire d'avoir des informations sur ce qui se passe sur la plateforme Airbnb. Est-ce que Airbnb doit restituer ces informations-là au territoire? Est-ce qu'il y a là ou pas, la réponse est oui, des données d'intérêt général. Ils ne sont pas obligés de tout donner, mais c'est un vrai sujet. Parce qu'après, il y aura des questions de savoir s'ils donnent vraiment tout, parce que derrière, il y a du contrôle fiscal, etc. etc. Des enjeux juridiques aussi sur la protection des données avec ce fameux règlement européen qui arrive, qui s'impose à tous, entreprises, associations, collectivités publiques. J'en dis juste un mot, on ne va pas faire une conférence ce soir sur le règlement européen sur la protection des données personnelles, il y en a partout en ce moment. Beaucoup d'avocats font ça très très bien et vont gagner beaucoup d'argent en 2018, application en mai 2018. Simplement, ce qui est important à savoir sur ce règlement européen, c'est que, je caricature un petit peu, je m'excuse, il y a des juristes dans la salle, mais la loi informatique et liberté, elle date de 1978. Les Français savent qu'elle existe, la loi informatique et liberté. Ils savent qu'il y a une CNIL, ils ne savent pas comment ça marche. Mais ils savent que quand il y a un problème, qu'ils ont l'impression que leurs données personnelles sont utilisées d'un moyen qui ne devrait pas être, ils savent, on peut saisir la CNIL. C'est devenu une formule du langage courant. On allait fêter les 40 ans de cette loi et elle va mourir de sa belle mort avant de fêter cet anniversaire et être remplacée par ce règlement européen. Alors, quand on pense règlement européen, on a tous le réflexe de se dire, oulala, qu'est-ce qui va être fait ? On avait une loi très protectrice en France. Règlement européen, il va probablement y avoir de la dérégulation. On raisonne assez mécaniquement comme ça. Et on se dit, il va y avoir une harmonisation. Soit on a trouvé un plus petit dénominateur commun, soit on va faire une harmonisation par le bas. En l'occurrence, le règlement européen sur la protection des données personnelles, il va être complexe à mettre en œuvre, mais dans ses intentions et dans ses principes, c'est un alignement pour les 28 pays européens par le haut. Le règlement sur la protection des données personnelles s'aligne sur les deux législations les plus protectrices des données personnelles qui existent en Europe, la législation française et la législation allemande. Il est d'inspiration française, c'est la CNIL française qui présidait le groupe de travail des 28, et il est d'application extraterritoriale. Ça aussi, ça mérite un petit mot qui est important. C'est qu'il ne s'agit pas de définir par un règlement européen comment on traite les données personnelles en Europe, mais il s'agit de savoir comment sont traitées les données personnelles des Européens n'importe où dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui, en droit, est extrêmement intéressant, extrêmement important. Ça veut dire que la manière dont Facebook traite les données personnelles des Européens en Californie est régie par ce règlement européen. Avec des concepts nouveaux qui font leur apparition, alors là, je vais aller beaucoup plus vite, notamment ce qu'on appelle le privacy by design, c'est l'idée que là où jusqu'à présent, peu importe comment gérer un fichier, on pouvait le mettre sur Excel, dans une base de données qui était sécurisée, dans une base de données qui n'était pas protégée, dans un endroit un peu pourri, ce qui comptait, c'était de déclarer le fichier à la CNIL. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On doit réfléchir à la manière dont on stocke les données, dont on assure la sécurité de ces données. Je fais vite. Le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, c'est des choses qui existaient déjà par la loi Le Maire en France, la loi pour une République numérique, mais le règlement européen va donner la possibilité à tous les Européens de faire effacer des choses de façon automatique et contrôlée et vérifiée, notamment si vous n'êtes pas content de ce qui sort en premier quand on tape votre nom sur Google, vous aurez la possibilité de demander l'effacement de ces référencements. Je vais vite. Ce règlement, il prévoit des sanctions extrêmement fortes en cas de non-respect de cette protection des données personnelles. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Moi, je prédis que d'ici l'été 2018, il y aura deux ou trois, excusez-moi l'expression, j'étais un peu trivial, très gros cartons. Je pense que les CNIL européennes sont en train de préparer leurs armes pour taper très très fort sur Google, Facebook et d'autres. Facebook vient de se prendre trois condamnations sous les régimes juridique actuel à coup sur coup, notamment par la CNIL espagnole. Et je pense qu'il va y avoir des choses très marquantes qui vont être faites pour essayer de faire émerger un modèle européen de protection des données. Les enjeux économiques pour les territoires. À qui appartiennent les données ? À qui appartiennent les données du territoire ? À qui appartiennent les données des habitants des territoires ? Est-ce qu'un territoire qui souhaiterait, par exemple, avoir des informations pour le tourisme sur ce qui se passe sur son terrain par Airbnb, est-ce qu'on doit acheter des données à Airbnb ? Est-ce qu'on doit échanger des données ? Airbnb me donne ses données sur la fréquentation touristique de la location d'appartements sur mon territoire, mais me demande en échange des données publiques sur la manière dont on gère les flux de transport des touristes. C'est des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Ce dont je vous parle, là, c'est des sujets qui sont posés aujourd'hui. Quel type de retombées on a pour le territoire ? Il y a des enjeux politiques. Il y a notamment un enjeu qui, de mon point de vue, est tout à fait majeur, qui est celui de la souveraineté publique sur les données d'intérêt général. Aujourd'hui, notamment avec la généralisation de l'open data, on est en train de libérer dans une volonté de transparence énormément de données publiques qui proviennent de la fabrication du service public, de la fabrication de l'intérêt général, et c'est une bonne chose. Mais derrière, quels vont être les usages de ces données ? Et quelle contrepartie il y a lorsque d'autres acteurs, des acteurs économiques notamment, vont capter ces données et s'en saisir, et si eux-mêmes sont détenteurs de données d'intérêt général, comment est-ce qu'on les récupère ? Exemple concret, le GPS Waze, GPS communautaire que vous connaissez sans doute tous. Waze demande actuellement aux collectivités locales de lui fournir un maximum d'informations sur leur plan de circulation, de fournir des informations sur les travaux, de fournir des informations sur les événements type carnaval, festival, marathon ou autre, pour améliorer le service que Waze va rendre aux automobilistes et utilisateurs. Je passe rapidement, il y a des débats actuellement, il y a des polémiques sur des collectivités qui leur auraient donné trop de données sans contrepartie, alors les autres sont coincées parce qu'elles auraient voulu leur en donner moins. En parallèle, Waze dispose d'une donnée d'intérêt général tout à fait essentielle. En France, en moyenne, Waze dispose de l'information d'un accident sur la route 4 minutes 30 avant les services de secours et de police. Entre le moment où quelqu'un appuie sur le GPS pour dire « il y a un accident » et le moment où les services de secours et de police sont prévenus, il y a 4 minutes 30 en moyenne. C'est évidemment une donnée d'intérêt général. Comment Waze restitue cette donnée et à qui ? Aujourd'hui, en France, on ne déclenche pas les services de secours parce que quelqu'un, dans du crowdsourcing, a signalé un accident. Dans d'autres pays, on le fait. Je pense que demain, on le fera aussi en France, moyennant certaines conditions de vérification et de contrôle. Les enjeux politiques, ils sont aussi sur la protection des données des habitants. Aujourd'hui, les acteurs publics partent avec un présupposé positif. Ils sont considérés comme étant des acteurs de confiance. Ce n'est pas la même chose que des tiers de confiance. Des acteurs de confiance, les Français considèrent, il y a des études tous les 6 mois qui sortent sur le big data, les Français considèrent que quand ils donnent leurs données à un service public, il n'y a pas de mauvais usage qui en est fait. Ils n'ont en revanche pas du tout confiance dans les usages que vont en faire les GAFA, Google, Facebook ou autres, ou la Fnac.com, ou la vente en ligne. Ils savent que leurs données vont être réutilisées pour des usages de marketing, de pub ciblée, etc. Ils ont confiance dans les acteurs publics. Pour autant, si on commence à utiliser ces données de façon de plus en plus massive, si on commence à faire des analyses qui sortent du champ pour lequel les données ont été collectées, il y aura des enjeux à garder politique, à garder cette confiance et à protéger les données des habitants. Il y a d'autres enjeux politiques qui sont que ces nouveaux outils, et c'est l'un des chapitres spécifiques du livre, permettent de nouveaux usages du numérique pour faire des démarches de type participation citoyenne. C'est tout ce qu'on va voir avec le mouvement des civic tech, et aussi de big data électoral. Et on a vu sur l'année 2016-2017 en France se déployer de nouveaux outils extrêmement puissants qui ont fait peu de vagues. Je le dis en ayant participé par ailleurs à une étude auprès de 300 candidats aux élections législatives de toute formation politique qui ont travaillé avec des outils de ce type-là. Il y a eu assez peu de vagues parce que globalement, les usages qui ont été faits en France du ciblage électoral et du big data ont été très mesurés, très modérés. Avec malgré tout un problème qui est que nos politiques, s'agissant de législatives, pour beaucoup des députés sortants oublient de faire leur déclaration à la CNIL, ce qui est quand même un sujet qui est assez ennuyeux. Mais on a vu des outils d'analyse électorale qui utilisaient des modèles de big data très performants, avec des choses tout à fait étonnantes qu'on n'avait pas à disposition jusqu'à présent. Des outils d'empowerment, des outils on peut le traduire en brigadement, c'est pas le bon mot, d'encapacitation, des outils de mobilisation des partisans. Il y a eu des outils d'analyse sémantique également, de type big data, où en collectant beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur des enquêtes de porte à porte, il était possible, par des algorithmes, de faire sortir l'effet saillant. C'est notamment ce qui a été utilisé par La République En Marche très en amont, hein, dans le fameux porte à porte de l'été 2016. Et puis il y a eu un tout petit peu en France des tentatives d'outils prédictifs, mais très marginalement, et ça s'est assez vite arrêté. Il n'y a pas eu en France dans ces élections ce qu'on a pu voir aux États-Unis, Trump, Clinton, ce qu'on a pu voir en Grande-Bretagne sur le Brexit, un espèce de combat de savoir qui allait gagner entre les sondages traditionnels qui par définition étaient supposés se planter et les outils du big data qui peut-être eux allaient trouver la solution. On n'a pas eu ça en France, on a même plutôt vu les start-up ou les belles boîtes maintenant, parce que ce n'est pas que des start-up qui ont développé ce type de modèle, s'allier avec les instituts de sondage pour enrichir les modèles sondagiers et inversement enrichir leurs algorithmes des sondages. Autre type d'enjeu, des enjeux éthiques sur les usages que l'on peut faire de ces données. Je vais simplement, avec quel contrôle, quelle transparence, je vais vous donner simplement un exemple. J'ai conduit récemment une opération d'algorithme pour un département qui se pose beaucoup de questions, comme beaucoup de départements en France aujourd'hui, sur la manière dont ils gèrent le RSA, dont ils gèrent les bénéficiaires du RSA, avec un problème d'abord financier énorme qui fait que les départements n'arrivent pas à faire face. Et en même temps, ils savent qu'entre 20 et 25% des gens qui devraient bénéficier du RSA ne viennent pas chercher cette aide. Et ça a un coût important. D'abord, un coût évident pour les personnes qui pourraient avoir cette aide et qui, pour plein de raisons, n'en bénéficient pas, mais un coût pour la société parce que des gens qui ne seraient pas rattrapés par le filet de sécurité du RSA peuvent chuter plus bas et le coût pour la société de les ramener ensuite est bien plus élevé. Et on m'avait demandé de travailler sur, alors c'est un gros département, l'ensemble des données des bénéficiaires du RSA depuis 5 ans pour essayer de faire de la modélisation, de la même manière que Amazon fait de la modélisation sur ses clients pour faire des modèles prédictifs sur ce que l'on va acheter ou pas. On a modélisé donc les bénéficiaires du RSA depuis 5 ans pour essayer de trouver des motifs, des analyses, des modèles explicatifs, par exemple, de quels bénéficiaires du RSA vont en sortir le plus vite par le haut pour voir peut-être comment concentrer les moyens et les efforts pour accélérer ce type de mouvement et pour essayer de détecter des zones de non-recours. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans ce territoire, ramené à toute petite échelle, dans lesquels eh bien, on puisse constater qu'en croisant de multiples critères, en l'occurrence là, l'ensemble des données des bénéficiaires du RSA depuis 5 ans, plus une quarantaine de critères socio-économiques et socio-démographiques par petite zone, les zones IRIS statistiques de l'INSEE, qui sont des zones de 2000 habitants, on a détecté une quinzaine de zones dans lesquelles on se dit, enfin le modèle nous dit, il est probable qu'à ces endroits-là, il devrait y avoir plus de bénéficiaires de RSA que ce qu'il n'y en a. Et derrière, on va voir avec les services du département comment améliorer peut-être le travail social qui est fait sur ces territoires. Mais pourquoi je vous parle de cet exemple ? Quels usages, quels contrôles, quelle transparence ? Parce qu'avec le même algorithme, on fait aussi sortir les zones dans lesquelles il y a trop de bénéficiaires du RSA par rapport à ce qui pouvait être escompté. Et ce type d'algorithme, ça peut servir à chasser la fraude. Alors nous, ce n'est pas la commande qu'on avait reçue. Si on avait, je le dis très clairement, si on avait reçu cette commande, nous n'aurions pas fait ces développements. D'autres font ça très bien. Nous, ce n'est pas notre job. Mais voilà, il y a des vraies questions qui se posent quand on utilise ce type de données de façon massive. À quelle fin ? Est-ce qu'on est transparent sur ce qu'on en fait ? Quels sont les contrôles possibles ? Des enjeux managériaux rapidement, parce qu'aujourd'hui, les acteurs publics font face, s'ils veulent, s'ils peuvent, se saisir de ces outils, à l'arrivée de nouveaux métiers. Il y a de la data science. Aujourd'hui, on a deux grandes collectivités, le Grand Lyon et la région Bretagne, qui ont officiellement recruté un data scientist. Des profils pas faciles à trouver. On a des chief digital officers qui apparaissent. On va avoir partout des délégués à la protection des données, mais ça, c'est parce qu'il y a le règlement européen. La question de la place de la donnée dans la décision publique devient un enjeu interne aux collectivités locales. Il y a de nouveaux procédés qui apparaissent. Il y a, j'y insiste tout de suite, du coup, un enjeu très important, c'est la nécessité de comprendre quels sont les ressorts de ces mécanismes pour que les élus comprennent en quoi l'accès à ces données peuvent modifier les mécanismes de décision, que les services territoriaux puissent comprendre comment ça peut fonctionner. Donc l'importance de la culture de la donnée est tout à fait capitale. Alors, pour terminer, des exemples très concrets, il y en a un certain nombre dans le livre qui sont développés sur des usages du big data à des fins de services publics. Le premier exemple, il n'est pas local, il est national. Je vais vous parler, alors on ne voit pas très bien, je vais vous parler de La Bonne Boîte. La Bonne Boîte, c'est un service qui est aujourd'hui en ligne proposé par Pôle emploi, qui indique « N'envoyez plus vos CV par hasard, découvrez notre sélection d'entreprises à fort potentiel d'embauche. » Et il y a un petit astérisque qui renvoie « Potentiel d'embauche, 2 points, algorithme exclusif de Pôle emploi, détectant les entreprises qui vont probablement embaucher ces 6 prochains mois. » Il s'agit, pour faire caricatural, ça pourrait être développé peut-être par Simon tout à l'heure, il s'agit de croiser dans un historique important l'ensemble des données qui ont été collectées à travers les autorisations d'embauche, les autorisations administratives d'embauche, déclaration préalable à embauche, pardon, avec tout un tas de critères qui ont permis de constituer un historique. On est dans la modélisation dont je parlais tout à l'heure, comprendre le monde, comprendre pourquoi et comment tel ou tel type d'entreprise à tel endroit, dans telle et telle circonstance, a été amené à embaucher dans le passé, pour pouvoir faire un modèle prédictif et dire, quand on a des personnes qui cherchent du boulot, qui disent ben, « je vais envoyer des vagues de candidatures spontanées », leur dire « regardez, dans votre secteur, dans votre branche, voilà les entreprises qui probablement, dans les 6 prochains mois, vont embaucher ». D'une certaine manière, ce que fait Pôle emploi à travers cet algorithme, c'est la même chose qu'Amazon. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, nous dit « Aujourd'hui, avec nos algorithmes chez Amazon, on est capable de déterminer les produits dont nos clients ont besoin alors qu'ils ne le savent pas encore ». D'une certaine manière, Pôle emploi nous dit « Voilà les entreprises qui vont probablement avoir besoin de votre profil dans les prochains mois alors qu'ils ne le savent pas encore, ils n'ont pas encore publié d'annonce, ils vont recruter et c'est à elles qu'il faut s'adresser ». Il y a des exemples dans les territoires. Il y a pas mal de débats, de polémiques, de sujets sur la police prédictive. On n'est pas loin de Minority Report dans certains cas. Je ne vais pas vous parler de ces modèles-là qui font du ciblage individuel de gens qui sont présupposés risquer d'être délinquants prochainement, alors petit ou grand, parce qu'on peut avoir ce genre de modèle dès la plus petite enfance. Mais je vais vous parler de ce qui est expérimenté à San Francisco sur la détection des événements violents, notamment entre gangs, à travers tout un tas de signaux qui sont donc traités par des algorithmes et qui peuvent permettre, dans certains cas, alors c'est un nombre de cas limité, mais après tout, si dans certains cas ça marche, ça mérite le coup d'être que cette expérience soit poussée encore un peu plus loin, de prédire l'endroit où des actes violents collectifs vont avoir lieu et d'y envoyer la police à temps, avant même. Rien à voir. À Rennes, on a actuellement un modèle prédictif pour la gestion des stations Vélostar qui tournent, qui est un modèle intéressant parce qu'au-delà de la gestion classique des vélos, donc il y a un grand débat actuellement à Paris sur le sujet, enfin je crois même qu'il est réglé le débat, à Rennes a été développé un algorithme extrêmement intéressant, amusant même, avec tout un tas d'éléments liés à la météo, liés à des événements culturels, des événements sportifs, qui ont été intégrés dans un algorithme pour pouvoir prédire à l'avance la manière dont il fallait réassortir les stations de vélos, pour faire simple. À Paris, Donc ça, c'est dans le cadre d'un programme expérimental dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Data City. On a expérimenté une application qui permet de prévoir l'heure de passage des ramassages de poubelles, non pas pour suivre la progression et la réalité du service public de ramassage des ordures, mais parce que dans certains quartiers, dans certaines rues, on a un problème qui est que quand les bacs sont sortis, on ne peut plus passer sur les trottoirs avec une poussette, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une application qui, derrière, nous signale « Attention, il va arriver d'ici une demi-heure et ensuite, on peut ramasser le bac une fois qu'il est passé. » Ça passe par des algorithmes et des modèles prédictifs du même style que ceux qu'on a évoqués précédemment. À Los Angeles, on a des choses sur le nettoyage des rues. À Paris, on a également un modèle prédictif qui a été expérimenté pour la modulation de l'éclairage public à partir de données massives qui, là, sont d'une autre nature. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est les données de téléphonie mobile qui est un vrai gros sujet pour le service public. À Lyon, on a un modèle actuellement prédictif du trafic, des embouteillages qui, à une heure, c'est-à-dire avec une heure d'avance, marche très bien puisque dans 80% des cas, il prévoit les congestions urbaines, les embouteillages. Alors pourquoi je vous dis à 80%? Parce que pour revenir sur la manière dont tout ça fonctionne, quand on fait des prévisions avec des outils de ce type-là, comme on a les mesures des réalisations derrière, on sait si la prévision était exacte et s'il y a un écart entre la prévision et la réalisation, on va réintégrer cet écart dans l'algorithme qui lui-même va s'améliorer pour pouvoir améliorer son processus de précision. Et Lyon est cité souvent comme étant un modèle de référence, y compris international. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une application, par exemple, à l'attention des professionnels de la livraison, qui du coup sont avertis des problèmes probables dans l'heure à venir et peuvent modifier leur parcours de livraison pour pouvoir éviter d'y contribuer eux-mêmes. En matière de tourisme, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Je reste sur Paris une seconde. Il y a un modèle analytique qui a été développé qui croisait l'année dernière, pendant plusieurs mois, les données de déplacement des touristes avec leurs données de carte bancaire. Alors vous allez me dire, données de carte bancaire, comment est-ce qu'ils y ont accès? Tout ça se fait dans des processus et des protocoles qui sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on a des données sur des flux de déplacement, d'où viennent les touristes, où ils vont, qu'est-ce qu'ils visitent, et en parallèle, on va dire, des flux d'achat. Mais on ne sait pas que c'est monsieur un tel, madame un tel, le touriste en provenance de tel ou tel pays. Et qui permettent quoi? Qui permettent d'optimiser la manière dont on va organiser des circuits touristiques. Là, en l'occurrence, il s'agissait des bus impériales. Et pourquoi pas cibler également des offres d'attraction, d'attractivité touristique ou alors faire de la publicité. Dans ce livre, je ne fais pas que décrire tout ça. Il y a quelques convictions et quelques préconisations. D'abord, l'idée qu'il y a une obligation d'agir. Parce que quand on parle de tous ces sujets-là, y compris en le faisant à bâton rompu, comme je viens de le faire, on voit bien que ça pose quand même plein de questions. On manipule des données personnelles, on est en train de se dire, il est en train de nous dire, il faudrait que les services publics se comportent avec les citoyens, les habitants, les usagers du service public de la même manière que Google, Amazon et les autres se comportent avec celles et ceux qui utilisent leurs services, dont on peut penser que ça va trop loin, que c'est exagéré, qu'il y a des pratiques déloyales, etc. C'est une question. Et certains acteurs publics aujourd'hui disent, nous, on ne veut pas rentrer sur ce terrain-là. Pour ma part, je suis convaincu que c'est une erreur. Parce qu'il y a aujourd'hui des acteurs privés. Je parlais de Waze tout à l'heure sur la circulation. On peut penser à Google dans l'offre de services de transport. Mais on peut penser à tout un tas d'autres choses qui sont en train de se faire avec des acteurs du commerce, avec des acteurs des grands services de gestion de l'énergie, des grands services de la gestion de l'eau, qui sont des entreprises privées, et c'est bien légitime, leur finalité, c'est de gagner de l'argent, ils sont aujourd'hui en train, des assurances, des banques, sont en train aujourd'hui de collecter de façon assez intrusive des données qui sont des données d'intérêt général. Et si les acteurs publics ne se saisissent pas de ces sujets-là, il y a un risque d'une évolution de la gestion. Je qualifie privatisation. mais aussi auprès des agriculteurs. Faire œuvre d'éducation populaire, éducation citoyenne, cela fonctionne. Cela peut passer par des actions éducatives. J'en citerai deux. Il y a la MGEN et l'attention des jeunes, extrêmement intéressant sur YouTube, par un YouTuber célèbre qui a d'abonnés sur sa chaîne YouTube qu'un homme politique et qui c'est marrant, jeune qui était ce qu'il y a un autre exemple très intéressant. Vous savez qu'elle la métropole a repris la compétence de la gestion du collège, puisqu'il y a eu une fusion dans son collège. Dans 9 collèges lyonnais, il est actuellement installé des capteurs, non pas pour faire un smart college, non pas pour faire un système
où la gestion de la donnée gouvernerait la manière dont l'établissement scolaire est géré, mais pour récupérer des données à des fins éducatives, c'est-à-dire que ces capteurs permettent de récupérer des données qui sont mises à disposition des enseignants et utilisées en cours pour faire de l'éducation. Je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. De la médiation, elle intervient à deux niveaux. Elle intervient dans l'utilisation des données. Elle intervient aussi dans la médiation auprès des publics en difficulté, parce que tout ce dont on parle là peut poser un certain nombre de problèmes dans l'accès aux services publics. Obligation de transparence. Un exemple sur lequel je m'arrête quelques instants. Un exemple réel. La une de Presse Océan, le journal local. Nantes, la métropole, chasse nos données. Ça a fait beaucoup de vagues. Et ça, c'est la une, mais à l'intérieur, il y avait deux pleines pages avec une caricature de Madame la maire de Nantes, Johanna Roland. Johanna, Big Brother is watching you, avec une caricature demi-page. Ça a fait des vagues à Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé? La métropole a décidé d'acheter de façon massive des données, tu m'excuses une seconde, issues de ça, des smartphones, pour avoir une meilleure lecture en temps réel ou en analytique des flux de déplacement dans la ville qui, je ne sais pas s'il y a des Nantais ou des gens qui connaissent la ville, le vendredi soir, on ne peut ni rentrer ni sortir de cette ville. Essayer de comprendre les trajectoires, les circulations. Aujourd'hui, sur les flux urbains, sur les flux de transport, on travaille en comptage, on travaille en enquête, on travaille en échantillon. Par les données des téléphones, on est capable d'avoir l'ensemble des flux. Alors vous me direz, quel type de données des téléphones? Les données des téléphones, on pense tous à la géolocalisation et on a tous l'habitude d'avoir des messages « Acceptez-vous la géolocalisation ?» et on décoche la géolocalisation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les opérateurs de téléphonie n'utilisent pas ce type de données. Ils utilisent une autre donnée qui est le signal que reçoivent les antennes lorsque l'on passe avec notre téléphone, qui est une donnée qui non seulement est indispensable pour qu'on ait accès au service, pour qu'on puisse téléphoner, mais que par ailleurs, ils ont l'obligation de conserver pendant un an pour des raisons d'accès pour la justice, pour la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Tous les opérateurs de téléphonie en France ont galéré pour construire des dispositifs techniques extraordinairement sophistiqués qui leur permettent de garder la traçabilité pendant un an de tous nos déplacements à partir des signaux que nos téléphones envoient vers les antennes relais. Une fois qu'ils ont fait cela à des fins exclusivement réservées à la justice, ils se sont posé la question de savoir s'ils pouvaient s'en servir pour autre chose, sous couvert de protocoles extrêmement rigoureux qui font que ce sont des données qui sont toutes rigoureusement anonymisées dans le cadre de dispositifs qui sont validés par la CNIL. Aujourd'hui, j'étais ce matin à un colloque du CGET où Orange présentait ses services aux villes pour avoir la vision de l'ensemble des flux de déplacement du territoire. C'est de ça dont la métropole voulait se saisir pour améliorer sa compréhension des déplacements dans la métropole. Est-ce qu'il s'agit de données d'intérêt général? Je reviens à mon sujet tout à l'heure. D'évidence, oui. Est-ce que ça pose un problème de confiance? Sur le papier, non. Mais dans la pratique, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont très embêtés avec ce sujet-là. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que quand je prends mon abonnement téléphonique chez Orange, en l'espèce, je fais ce que nous faisons tous. Nous sommes tous complices du plus grand mensonge qui existe sur Internet. C'est « j'ai lu les conditions générales ». On ne les a pas lues. On a cliqué OK. Mais même si je les avais lus, est-ce que j'aurais compris que Orange gardait mes données pendant un an? Sans doute pas. Et est-ce que j'aurais compris que Orange pouvait les revendre au maire de ma commune? Encore moins. Donc la question de la transparence, de la manière dont tout ça se construit, fait qu'il est possible ou pas d'utiliser ce type de données. Autre exemple, retour sur l'étrange affaire des capteurs espions dans les lits des étudiants du Crous à Rennes. Il s'agissait de lits mobiles, un dispositif très sophistiqué, très malin, dans lequel il y avait une puce pour de la maintenance préventive. Alors vous me direz, mettre une puce dans des lits, il fallait oser. Mais je le passe. C'était un très beau projet sur lequel il y a eu zéro communication, sur lequel il n'y a pas eu d'accompagnement des utilisateurs, sur lequel on n'a pas dit pourquoi on collectait quel type de données. C'est sorti dans la presse avant même la rentrée universitaire. Autant vous dire qu'ils ont dû enlever les puces rapidement. Et puis alors, puisqu'on est sur le Crous, je suis désolé pour eux, mais on a eu aussi cette affaire. Ils lisent l'application du CNUS qui géolocalise les étudiants et renseigne les sociétés publicitaires, qui est un autre sujet d'une application qui sert à payer au restaurant universitaire, dont les données collectées comportaient de la géolocalisation et dont on a pu penser, alors depuis ils s'en sont défendus très clairement, mais qu'elles étaient massivement revendues à des fins commerciales. Elles ont été utilisées peut-être à des fins dont les étudiants n'avaient pas connaissance, ça c'est sûr, massivement à des fins commerciales sans doute pas, mais pour autant ça pose la question de qu'est-ce qu'on a comme information. Et quand on laisse ces données à Google, à la Fnac.com, n'importe quelle vente en ligne, quand on laisse ces données dans du business, dans du commerce, on sait qu'elles vont être réutilisées à des fins commerciales. On n'en est pas nécessairement content, on n'en est pas nécessairement conscient, mais quelque part, il y a l'idée que ça fait partie du jeu. Quand on a affaire à des acteurs publics, on n'attend pas ça de leur part. Donc on a besoin de construire la confiance autour de tout ça. Du coup, ma conclusion, c'est qu'il y a une obligation d'être stratège. Et si je reprends mon schéma de tout à l'heure avec les quatre sources de données, avec les quatre types de données, les quatre enjeux qui s'additionnent, il faut que les territoires, et c'est pour ça que le bouquin s'appelle « Les nouvelles stratégies de la donnée au service de l'intérêt général », construisent une stratégie de la donnée. Quel type de données est-ce qu'on veut collecter? C'est quoi une donnée d'intérêt général pour moi? Quels moyens je mets en place pour les collecter? En quoi je m'engage vis-à-vis des habitants à en faire tel ou tel usage et pas tel autre? Quels moyens de contrôle je mets en place? Je vais vous citer un exemple, alors qui n'est pas français, qui est l'Écosse. Alors, on voit mal là. Le document s'appelle « A Data Vision for Scotland ». Le Parlement écossais a voté un document qui est assez bref, qui dit aux Écossais, voilà toutes les données qu'on va collecter, voilà ce qu'on va faire de vos données, voilà les usages qu'on en attend, voilà les améliorations du service public qu'on en attend, et voilà comment c'est évalué, voilà comment c'est contrôlé. Et il y a y compris une autorité indépendante de contrôle dans laquelle il y a des chercheurs, des citoyens tirés au sort, qui vérifient les usages qui sont faits des données par des acteurs publics. En faisant cela, on va plus loin que les obligations légales. On respecte la réglementation sur la protection des données, on respecte tout un tas de cadres qui sont liés qui s'imposent à tout le monde, aussi bien aux entreprises qu'aux acteurs publics. Mais ma préconisation, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est de dire les acteurs publics ont une obligation supérieure, ont des enjeux qui dépassent la stricte mise en œuvre des outils et des règles du big data, et c'est cela qui est le plus important. Alors, en guise de conclusion définitive, avec 2 minutes de retard, je m'en excuse, mais c'est à cause de la panne de micro, un petit peu de lecture, je me permets de faire un tout petit peu de publicité. Le premier bouquin que je vais recommander, c'est Datanomics, dont l'auteur est parmi nous. Simon le sait, je le lui redis publiquement. Si je n'avais pas lu il y a quelque temps Datanomics, je n'aurais peut-être pas eu l'idée d'écrire le Big Data des territoires aujourd'hui. Evgeny Morozov, pour tout résoudre, cliquez ici, qui est plus un essai, on va dire, de sociologie, de philosophie politique, d'analyse technologique sur la manière... Non, pardon, Datanomics, j'ai été trop vite. Donc c'est un livre, on va dire, Simon, je ne sais pas, un livre de vulgarisation sur qu'est-ce que la donnée, quels sont les enjeux de la donnée, quelle est la valeur de la donnée, comment ça fonctionne. Et c'est très accessible et en même temps, ça détaille des choses très précises. Donc Evgeny Morozov, on est plus là dans un essai sur... comment fonctionnent tous les outils technologiques qui aujourd'hui régissent pour une large part notre quotidien. Un essai, alors là, pour le coup, très politique, la nouvelle servitude volontaire, enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. Là, on s'éloigne un petit peu des choses opérationnelles, encore que. Pour ceux qui n'auraient pas envie de lire d'essai, un roman, Le Cercle, que vous connaissez peut-être. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film qui est sorti cet été. Le Cercle, j'ai souvent l'habitude de dire en plaisantant, quand il est sorti en anglais il y a 5 ou 6 ans, c'était de la science-fiction. Quand il est sorti en français il y a 2-3 ans, c'était de l'anticipation. Et si vous ne dépêchez pas de le lire, ça sera un reportage. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est recrutée dans une espèce de giga-entreprise qui fait que Google, Amazon, Facebook et les autres ne formeraient plus qu'une seule entreprise et auraient la volonté de régenter nos vies au quotidien. Et ça commence par la manière dont l'entreprise est gérée de l'intérieur. Et puis une bande dessinée, voilà comme ça, roman, bande dessinée, Dans l'ombre de la peur, un reportage sur le big data et comment ça fonctionne, qui a été un reportage fait par deux journalistes américains qui a été transcrit en bande dessinée et sorti en France il y a quelques mois maintenant. Voilà.
Et j'ai participé à une conférence aussi, c'était hier au CESE, sur le big data et l'intelligence artificielle. Et c'est juste une ouverture, mais vous pouvez répondre plus tard. Vous avez cité Orange, vous avez cité d'autres exemples, où là, les choses se sont faites contre l'avis ou sans que les utilisateurs le sachent. En fait, il y a un autre exemple qui a été cité, et la personne qui est directrice de la stratégie donc mondiale d'Alliance l'a dit comme étant un exemple vertueux, où en fait, là, on est dans un cas où les utilisateurs donnent volontairement toutes leurs données, puisqu'on leur branche une puce dans leur voiture. Objectif, payer moins cher l'assurance. C'est-à-dire qu'on va calculer leur trajet, l'accélération, les ruptures, les freinages brutaux, les changements de trajectoire, enfin, des choses quand même extrêmement particulières et précises. Donc là, on n'est pas du tout dans un cas d'usage non connu de la part des usagers, puisqu'ils le font en pleine conscience. Donc la question sera, est-ce que là, on est toujours dans l'intérêt général ? Voilà. Et on peut peut-être le garder pour tout à l'heure.
Simplement, pour parler d'assurance, je vous dirais que dans l'exemple que vous citez, les personnes qui mettent des capteurs dans leur voiture pour réduire leur prime d'assurance mettent le capteur en toute connaissance de cause. Et aujourd'hui, y compris Noroto vend un capteur de ce type-là, qui est... Simplement, l'usage qui est fait de la donnée derrière n'est pas nécessairement connu. Alors pour le coup, en termes de transparence et de consentement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais deux mots très importants pour comprendre tout ça, c'est le consentement à quelque chose et la loyauté de celui qui a collecté la donnée. Si le consentement est parfaitement éclairé, qu'on sait exactement ce qui va être fait, que j'ai dit OK, et que celui qui a collecté la donnée se limite à l'usage pour lequel je donnais mon accord et se comporte de façon loyale, les choses vont bien. Assurance pour assurance, je vous citerai la Maïf, qui a une démarche différente, une démarche expérimentale, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Mes Infos, qui est piloté par la FING, qui est de dire aux acteurs, à ses adhérents, actuellement il y a un processus pilote avec un certain nombre d'adhérents de la MAIF, de sociétaires, qui doit dire, je vous restitue les données. Toutes les données que j'ai collectées sur vous, je vous les restitue. Elles sont quelque part dans un espèce de conteneur crypté qui est à vous, et à chaque fois que j'en ai besoin, je vous redemande votre consentement. Je redeviens propriétaire de toutes mes données, et à chaque fois qu'on veut en faire un usage, je dois dire OK.
On passe tout de suite à la table ronde. Je propose à nos intervenants que je vais présenter rapidement, Joël, Florence qui est déjà en place, Simon et toi Jacques. Moi je vais me mettre à côté, là je vais prendre une chaise. Voilà, prenez vos aises. Oui, installez-vous. Donc je vous les présente brièvement. Florence Durand-Turnard, qui est fondatrice de Ville Internet, vice-présidente de Débalab, et puis depuis longtemps, tu dis 18 ans, hein, 18 ans au service de la transition démocratique et de l'Internet citoyen. Donc tu as vu passer toutes ces transformations depuis déjà quelques temps. Joël Gombin, de Dactivist, qui est une structure qui accompagne les acteurs public et privé aussi dans l'open data et qui a un profil de politiste et de data scientist et qui connaît bien aussi la question des élections. Simon, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un spécialiste de la donnée, auteur de plusieurs ouvrages et qui, il faut le dire quand même, est un pionnier de ces questions, et notamment depuis ton passage glorieux à la ville de Rennes. Qui avait été un peu un des pionniers de ces questions, et puis Jacques. Alors, ça doit bien faire marrer Simon, parce qu'il sait que moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions. Moi, je suis un généraliste de l'innovation publique, mais donc, du coup, j'ai un petit peu planché. Et donc, j'avais envie d'organiser le débat autour de 5 questions. Donc, on aura pour chacune de ces questions 10 ou 15 minutes. Et puis, on accueillera vos questions et on ajoutera d'autres thèmes. Un premier sujet qui m'intéressait, c'était comment ça va se passer concrètement pour les collectivités. C'est-à-dire qu'elles ne démarrent pas de zéro. Il y a aussi, il y a derrière nous 10 ans d'open data. On ne parlait pas encore de big data, mais moi, ça m'intéresse qu'on parle un peu de concrètement comment est-ce qu'elles vont s'y prendre. Et on va sans doute voir que les choses ne sont, sont pas très simples. Surtout dans cette période de réduction des dotations aux collectivités locales. J'aimerais bien qu'on parle ensuite de big data et de fracture numérique. Est-ce qu'on est bien certain que ça ne va pas accélérer encore nos problèmes récurrents de fracture territoriale, sociale, puisqu'on sait que la fracture du numérique est mobile. Dans un troisième temps, j'aimerais bien qu'on fasse une focale sur les applications électorales, parce que là, je crois qu'il y a un enjeu extrêmement intéressant, et c'est peut-être aussi avec Joël qu'on pourra faire ça. Dans un quatrième temps, je m'étais dit que ça serait intéressant de parler des nouvelles gouvernances. Comment est-ce que les villes doivent s'interfacer ou pas avec ces nouveaux opérateurs ? Moi, j'étais hier à une explication de la ville de Toronto qui expliquait comment ils avaient travaillé avec les opérateurs, les taxis, Uber, pour repenser la fluidification du trafic et au fond arriver à une réglementation commune et acceptée par tous. Donc c'est probablement qu'il y a des formes de gouvernance possibles. Et puis j'aimerais bien qu'on conclue, si on arrive, sur des questions plus de politique, d'éthique, parce qu'il y a aussi un certain nombre de questions comme celles que vous avez posées et d'autres. Donc on commence tout de suite peut-être par la question de la mise en œuvre. Il y a toujours, tous ici, je pense qu'on a tous l'habitude des grandes promesses des technologies et qui doivent rencontrer les dures réalités des contextes et de la vie de nos organisations publiques. Si on regarde aujourd'hui le contexte dans lequel sont les collectivités, au fond, cette question des big data, quand on écoute Jacques, leur amène de nouvelles fonctions et de nouvelles obligations. Moi, j'ai noté, donc là encore, je le rappelle, dans un contexte de réduction des crédits publics, est-ce qu'elles vont pouvoir tout à la fois investir pour se mettre aux normes, pour être dans ce qui est prévu dans la nouvelle réglementation, mais peut-être aussi parce qu'en général, elles cherchent aussi à jouer un rôle de sensibilisation et à jouer un rôle à garantir le bon usage des données, mais à aussi avoir est-ce qu'il restera encore des investissements pour investir dans de nouveaux services dans une période où les collectivités sont exsangues et où ça commence à vraiment se voir. Donc voilà, c'est aussi peut-être en se disant qu'on vient déjà de 10 ans d'open data, on n'a pas été non. Enfin, il y a un peu une déception, on peut quand même le dire, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de choses dans les transports, par exemple, mais il n'y a pas eu non plus les transformations qu'on attendait. En quoi les big data vont changer ça ? Est-ce que, Simon, tu veux réagir ou
D'accord, très bien. Déjà, merci à Jacques et à Stéphane de leur invitation. Tu ne l'as pas précisé, mais je travaille au sein de la mission Etalab, qui est le service du Premier ministre, initialement en charge de l'ouverture des données publiques, ce qui reste toujours notre métier. Mais plus globalement, aujourd'hui, on travaille sur deux axes qui sont à la fois l'ouverture et la donnée, et parfois même la donnée ouverte. Mais voilà, l'ouverture étant plus large que ça, puisqu'on a notamment piloté une grande partie de la consultation autour du projet de loi République numérique. Voilà. Donc l'ouverture, ce n'est pas que ouvrir des données, c'est aussi une autre manière de concevoir l'action publique. Alors, pour répondre à ta question, moi, je voudrais juste... On va en parler de ce qui va se passer bientôt, du RGPD, de l'entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, mais je voudrais juste qu'on rembobine. Il y a 40 ans, il s'est passé un truc assez marrant. Je n'ai pas encore fait les travaux d'archéologie parlementaire avec Joël là-dessus, mais on va s'y pencher sérieusement. À quelques mois d'écart, en France, on a voté deux lois. En janvier 1978, la loi Informatique et Liberté. Et en avril 1978, la loi sur l'accès aux documents administratifs. Je n'ai pas encore trop compris pourquoi, d'un seul coup, le législateur avait eu, à quelques mois d'écart, ces deux sujets-là. Ce qui est très amusant, c'est que l'an prochain, ça fera 40 ans, et que l'an prochain, à quelques mois d'écart, rentreront en vigueur le RGPD, qui est en gros la nouvelle manière de concevoir la loi informatique et liberté, et les nouveaux principes qu'on a réussi à passer via la loi pour une République numérique. Et donc on voit que cette question de la donnée, que ce soit territoire, pas territoire, elle a toujours avancé sur deux jambes, qui étaient à la fois de, j'essaye de protéger la vie privée des individus, ok, mais en parallèle, ben, quand même, il y a quand même un droit d'accès. Alors à l'époque, on parlait plutôt de documents, maintenant on va parler de données. Enfin, voilà. Si tu reprends le temps long, c'est amusant, juste je pose ça sur la table, hein, un constat de, il y a eu quelques mois qui ont séparé les deux. Après, il y a un truc qui me semble hyper important aussi, c'est sur quel temps on se situe. Le temps de la loi en matière de numérique, c'est 10 ans. Le RGPD dont on parle là, hier on était en entretien avec la Commission européenne, et ils nous ont dit la première copie remise par la Commission européenne du RGPD, c'est septembre 2011. C'était il y a 6 ans. Le RGPD ne parle quasiment pas d'algorithmes. Et de ses concepteurs même, ils disent ben oui, parce qu'il y a 6 ans, c'était pas autant dans le débat. Donc, on pourra avoir tout à l'heure un débat qu'on a déjà initié dans la journée par mail avec Florence sur est-ce que en fait on en demande trop aux collectivités, est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles sont pas prêtes. Il faut juste comprendre que là, via notamment la loi pour une République numérique, on a saisi un train qui ne passe que tous les 5 à 10 ans, l'opportunité de légiférer sur ces sujets numériques. La dernière grande loi qui parle de numérique en France, alors les trolls diront c'est Hadopi, moi je dis c'est la loi LCEN sur la confiance dans l'économie numérique, c'est 2005. Donc voilà, c'est ça. C'est sûr aussi que je suis certain, et pour le coup j'étais petit en 78 ou en 79, mais je suis certain que si j'avais été dans ma mairie au 1er janvier 1979 et que j'avais demandé à faire valoir mon droit d'accès à l'information, tout joli, tout neuf, puisqu'il avait été voté l'année d'avant, je pense que j'aurais fait chou blanc. Il ne faut pas qu'on se cache, c'est évident que les nouveaux dispositifs dont on parle, ça va prendre du temps, parce qu'il y a des changements qui sont aussi d'ordre culturel, quoi. Voilà. Donc tu vois, c'est plutôt ça. Mais alors peut-être que voilà, je suis jugé parti. Moi, je vous parle d'un truc qu'on a essayé aussi de pousser jusqu'au bout du processus législatif et très content et très fier que ça puisse être dedans. Peut-être que le futur aurait été différent si en fait il n'y avait pas eu l'opportunité de la loi Le Maire et qu'on n'avait pas mis l'open data par défaut. Peut-être que dans 2-3 ans, ça se serait arrêté comme ça de sa belle mort, je ne sais pas. Mais c'est voilà, je voulais juste rappeler cette histoire de temps long parce que c'est important, je pense, de comprendre que le droit et les technologies, ça évolue pas au même rythme et pas toujours dans le sens où on croit, quoi. Voilà, c'est pas toujours que les technologies galopent très vite. C'est aussi que parfois le droit, il peut prendre un certain temps et puis derrière, les pratiques sont plus longues à se mettre en place.
Juste un petit clin d'œil, le 1er janvier 1979, c'était sans doute difficile d'obtenir l'accès aux documents administratifs. Parfois, en 2017, c'est encore difficile. Donc le temps long ne permet pas toujours l'entrée dans les pratiques des dispositions légales, quand bien même elles sont sanctionnées par le droit, comme c'est le cas pour la loi CADA. Et il me semble que ça tient aussi largement aux pratiques et aux cultures, à la fois internes à l'administration, et notamment sur la CADA, sur le droit CADA, on pourrait en identifier plusieurs, mais un élément qui est assez frappant, et peut-être de plus en plus, c'est que précisément parce que la loi CADA introduit un mécanisme et un process pour obtenir l'ouverture des documents administratifs, de plus en plus d'administrations se cachent derrière ce process et disent « moi, tant que j'ai pas de saisine CADA, je n'ouvre pas mes documents ». Ce qui est un problème parce que en fait le droit remplace la pratique et au lieu de la fluidifier la lourdit. Et puis aussi à cause des pratiques et des usages externes à l'administration. Et il me semble qu'une différence fondamentale entre la loi CADA en France et les lois type FOIA aux États-Unis ou au Royaume-Uni, au-delà du dispositif juridique qui est plus contraignant, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins de recours externes. En France, on a, même si la CADA est dépassée par le volume des demandes, en réalité, le volume des demandes est assez faible. Et qualitativement, je pense que les données qui sont demandées sont parfois aussi beaucoup moins sensibles que celles qui peuvent être demandées et ouvertes. Les données ou les documents aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc, je pense que cette question du rapport entre la pratique et les préconisations légales, elle doit être aussi être pensée dans un cadre plus large qui est celui des pratiques des autres acteurs et des cultures. Et ça, on va voir effectivement à l'expérience que ça va donner sur la loi Le Maire ou sur le RGPD.
Oui, pour compléter, je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Je vais revenir à la notion de stratégie globale. Parce que si on prend les sujets un par un, on est sûr de se planter. Je disais l'autre jour dans un colloque où il y avait beaucoup de personnes du monde des systèmes d'information et par ailleurs beaucoup de juristes. Il y a deux bêtises à ne pas faire sur cette histoire de gestion des données publiques, c'est de confier le dossier soit aux informaticiens, soit aux juristes. Et le problème aujourd'hui, c'est que sur l'accès à l'information, on regarde ça d'un point de vue juridique. Sur la protection des données personnelles, on regarde ça d'un point de vue juridique. Sur la manière dont on va techniquement ouvrir les données, on va regarder ça d'un point de vue informatique. Or, le problème, c'est que nous sommes entrés de plein pied dans un monde où la circulation des données, la collecte des données est en train de nous échapper, y compris sur des données d'intérêt général. Et moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il est possible, je ne dis pas que ça va se faire partout très vite, mais qu'il est possible de créer des cercles vertueux où il y a aujourd'hui sur les territoires, grâce au travail qui a été engagé depuis quelques années, des masses absolument colossales de données qui sont ouvertes, qui ne sont pas produites par les services publics, mais qui sont utiles aux services publics. Je vais prendre un exemple. L'ouverture de l'ensemble des données de l'INSEE en matière de création d'entreprises, d'évolution du monde économique, ça s'appelle l'ouverture de la base Sirène en open data. Aujourd'hui, dans toutes les collectivités locales, quand on fait du développement économique, qu'est-ce qu'on fait ? Tous les 3 ans, on paye des bureaux d'études qui vont nous faire des analyses, je la fais rapide. On paye des bureaux d'études qui nous revendent des données qui aujourd'hui sont gratuites et disponibles. Et quand on va se rendre compte dans la fabrication des politiques publiques que progressivement ces mouvements vertueux mettent à notre disposition énormément de données, eh bien, on sera plus enclin à en mettre aussi à disposition. Et on va rentrer dans des dynamiques qui devraient progressivement rendre possible aussi l'usage d'outils de type algorithme et big data.
Effectivement, on sent bien qu'en même temps que le mode d'emploi réglementaire, on a besoin de plus en plus d'un mode d'emploi du changement systémique des organisations publiques. Parce que, au fond, c'est un sujet transversal qui vient concurrencer d'autres sujets jugés tout aussi transversaux, qui s'appellent développement durable. Je veux dire, il y a une forme de compétition des sujets transversaux. Et on voit bien qu'à un moment donné, les collectivités sont à la recherche du mode d'emploi pour arriver à gérer la transversalité entre leurs silos, la transversalité entre tous ces sujets transversaux. Et oui, je crois qu'on est quelques-uns à s'intéresser à ces questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question de la mise en œuvre pratique ? Est-ce que quand même, on voit se dessiner des collectivités qui ont déjà passé ce cap ? Qui aurait franchi et à quoi ça ressemble concrètement une organisation qui a réussi la transversalité que tu appelles de tes voeux. C'est vrai que en préparant la table ronde, je repensais à des chief data officers que je connais qui semblaient être tout seuls dans leur couloir, qui n'ont pas le droit de parler avec leurs collègues des départements voisins. Qui traînent dans les couloirs, je caricature, hein, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, qui disent « tu pourrais me donner tes données, s'il te plaît ?» on a du mal à voir, on sent qu'il y a une forme de solitude du Chief Data Officer quand il n'est pas justement dans un projet global, collectif, de changement. Mais est-ce que vous avez connaissance, en France ou ailleurs, parce qu'on est souvent un peu trop franco-français dans nos raisonnements, est-ce que vous pourriez citer une ville qui, elle, a réussi le truc ? Je pense à Boston ou des grandes métropoles anglo-saxonnes qui ont depuis longtemps fait la culbute, en quelque sorte. Vous auriez un exemple à donner ?
Le problème, c'est que la plupart des exemples, alors en France, on les connaît, effectivement, Lyon l'a fait, Paris l'a fait, Rennes a bénéficié d'un programme, un financement, programme d'investissement d'avenir sur un service public métropolitain de la donnée. Je pourrais te citer beaucoup de villes nord-américaines, mais le problème, c'est que tous les exemples qu'on va citer ne sont que soit des métropoles, soit des mégapoles, quoi. Oui, mais c'est quand même un enjeu. C'est-à-dire qu'en gros, et je ne pense pas qu'il y ait qu'un effet de taille aussi, quoi. C'est que c'est des territoires qui sont confrontés à des enjeux très particuliers aussi. Je pense que la pression d'un Airbnb, tu la vois bien, tu la sens bien quand tu es dans le Marais ou quand tu es à Saint-Malo. Tu la sens peut-être moins ailleurs sur d'autres territoires. Quoique, peut-être que je me trompe en disant ça. Mais Un exemple, moi j'avais été vraiment frappé quand mon boss, qui est toujours mon boss, mais il y en a entre les deux, Henri Verdier a été nommé administrateur général des données. On a fait venir pendant 2 semaines Mike Flowers, qui était le chief data officer de la ville de New York, à l'époque de Bloomberg. Et j'avais été hyper frappé qu'en fait le gars il s'occupait de everything data, quoi. C'est-à-dire que ça allait un petit peu dans l'esprit de ce que peut proposer Jacques, c'est-à-dire que ça allait de la donnée personnelle, de l'open data. Il y avait un lien entre les deux avec aussi des data science. C'est-à-dire il construisait des algorithmes en regardant ce qu'il y avait comme données dispo sur le portail. Enfin, voilà des approches très intégrées, quoi. Mais ce mec-là, il a fait 2 ans, après il est parti. Enfin, tu vois, il y a aussi. Tu dis solitude, je ne sais pas, mais ce n'est pas que ça n'a pas marché. Je pense que c'est. De toute façon, c'est des jobs de sacerdoce, de missionnaire. Voilà. Le missionnaire, soit tu as la foi, soit tu changes de diocèse.
Tu as amené de façon très adroite le sujet. La question de la fracture numérique et du big data, c'est-à-dire, au fond, Florence, on a l'habitude qu'une nouvelle, un nouveau concept arrive, une nouvelle technologie arrive, et en fait, de l'extérieur, enfin, vu du Pékin moyen, on voit bien que ça va aller encore. Tout ça, ça va être sur nos apps. Il y a, je crois, 65% des Français qui ont un smartphone. C'est pas donc tous les Français. On sait ce qu'il en est de la fracture numérique et sociale qui bouge tout le temps. En quoi ça ne va pas encore être un phénomène métropolitain pour des gens qui ont besoin de plein de services mais qui n'ont pas de vrais problèmes, en fait ?
C'est toujours sur moi que ça tombe. Pourquoi ? Parce que moi, je suis la voiture balai, en gros, dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que tous ces gens extraordinaires nous pensent des systèmes extraordinaires et qui ont beaucoup de valeur sociale, probablement, d'abord, économique, évidemment, d'abord ou pas, enfin selon d'où on se place. Donc, effectivement, et la fracture numérique. Bon, alors d'abord, la fracture numérique, n'oublions pas que c'est d'abord une fracture sociale et que ça avait été interprété comme ça, puisque c'était Jacques Chirac qui parlait des fractures sociales et qu'on a traduit d'une manière assez communicante la notion fracture numérique. Donc, acceptons cette terminologie. Mais il y a plusieurs manières d'aborder les choses. La première, c'est de poser la question. Moi, la première question que j'ai posée en arrivant dans la salle, c'est qui sont les gens qui sont là ? Je ne sais toujours pas qui vous êtes. Nous sommes partis du principe que vous aviez une culture générale qui vous a permis de comprendre tout ce qu'on vous a présenté là immédiatement. Non, mais qui simplement serait capable. Non, mais voilà. Et c'est pas. Non, mais c'est pas. C'est même pas tellement. J'ai pas tellement envie de le savoir individuellement. Ce que je vous re-questionne, c'est la question de la culture numérique. C'est comment on est capable de partager ensemble, dans l'ensemble vaste, et on va voir qu'il est même trop vaste, et que c'est une des complexités de la multitude. Je vous renvoie dans les bouquins, celui d'Henri Verdier quand même, machin, etc., et de Colin, on aurait pu... Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Et donc, voilà, il y a vraiment cette problématique-là. C'est-à-dire que la question de la fracture, il faut d'abord se la poser à soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je comprends dans cette histoire ? Qu'est-ce que je n'en comprends pas ? En quoi ça touche à mes droits fondamentaux ? Où ça n'y touche pas ? Et qu'est-ce qu'il en est vraiment de ma capacité de citoyen à m'emparer de cette empowerment. Alors déjà, il ne faut plus parler anglais, parce que sinon on comprend encore moins, mais franchement, hein, et surtout avec les collectivités. Alors messieurs, je vous recommande de faire un gros effort sémantique et de créer les glossaires. On est en train d'y réfléchir avec des acteurs de l'État, notamment le commissariat général à l'égalité des territoires, parce qu'il y a un gros problème pour pas travailler sur la culture, pour se poser ces questions-là. Voilà, alors ça c'est une entrée. Une autre entrée donc, est de se dire, on a une fracture en France, notre nouveau secrétaire d'État au numérique nous l'a rappelé, qui voisine, selon les analyses, entre 13 millions et 40 millions de la population qui n'a pas un accès. Je rappelle que la dernière étude Capacity, qui est faite par ce formidable laboratoire Marsouin, et vous êtes dedans, je crois, hein, la FING, etc., etc. Enfin, la FING, pardon, oui, pas la 27e, mais bon, voilà, tout va bien. Enfin, bon, que des gens très bien, mais l'étude, elle commence en disant... Alors, nous partons de la définition que l'internaute, j'ai appelé Plantard, hein, donc c'est public, et c'est privé aussi, parce que quand même, je me suis posé la question, un internaute, c'est quelqu'un qui se connecte une fois par trimestre au moins. D'accord. Alors, toute l'étude Capacity, elle est basée sur le fait que monsieur ou moi, demain matin, on ne se connecte plus qu'une fois par trimestre et on est traité de la même manière sur l'analyse de la déconnexion. Alors franchement, moi, je voudrais réinterroger l'étude et ses auteurs de ce point de vue-là, et je pense qu'il faut le faire sincèrement. C'est la prochaine. Elle est géniale. Il faut la lire. Hein. Ça fait partie de la construction de la compréhension de cette notion de la fracture numérique. Donc, pourquoi les gens ne sont pas là? On n'est pas ici pour l'analyser. Pourquoi ils sont déconnectés? Il y a d'abord, rappelons-nous qu'aujourd'hui en France, 20% des personnes en âge de passer le permis de conduire décident de ne pas le passer. Donc, on a aussi des choix éthiques individuels de ne pas utiliser le numérique qui ne s'amenuisent pas, mais qui ont plutôt tendance à augmenter, versus écologie, versus fracture écologique du numérique qui est quand même qui a dépassé l'aviation en impact écologique. Et il y a des gens pour qui cette conscience-là est extrêmement forte. On a des types de fractures, si tu veux, on pourrait les cumuler. Il y a celle de on a parlé de la temporelle. Alors la temporelle, pour les collectivités, pour rester dans notre sujet, elle est à fond. Je vérifiais là, je n'étais pas en train de tweeter, j'étais dans notre sujet, je vérifiais quand est-ce qu'on a commencé à imposer, à poser une loi qui dit qu'il faut dématérialiser les marchés publics. D'accord ? Ça a commencé en 2004, on est en 2017. Je pense qu'on n'a pas, en France, et je le dis d'où je parle avec ma capacité de retour d'expérience des collectivités, puisque via l'Internet, les collectivités s'expriment elles-mêmes et des acteurs très différents sur les usages. On a 19 000 actions dans notre atlas, on a quand même une petite vue là-dessus. Je peux vous dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait 1000 collectivités en France sur les 3000 qui ont un peu de puissance de tir sur le sujet, parce qu'il n'y en a pas plus sur les 36 000. Avec réforme, on peut compter autrement, mais en gros, il n'y en a pas 1000 qui l'ont fait intégralement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne montre pas l'exemple, excusez-moi, hein, mais l'État lui-même est dans une fracture numérique colossale. Pourquoi Etalab n'arrive pas à faire le boulot génial qui a été entamé par cette démarche? Excuse-moi, tu me répondras si je me trompe. Parce qu'il n'arrive pas à créer l'interministériel. Donc, aujourd'hui, ouf, on a un secrétaire d'État à l'interministériel, que je vois vendredi, je vais lui poser la question. Est-ce qu'enfin l'État va pouvoir être exemplaire et faire que tout qui s'harmonise sur l'ouverture des données? Donc les fractures, j'en ai listé. Alors, il y a la fracture de la confiance, pour revenir à des choses aussi qui sont liées au territoire et à la culture numérique des élus qu'on voudrait convaincre sur ce sujet, parce que je suis d'accord qu'il faut les convaincre, les accompagner, il faut qu'ils s'en emparent. Et que ton bouquin, on va le distribuer, parce qu'on n'est pas très riche, mais on va en tout cas le proposer à la lecture, à nos membres, et si tu veux bien, pour les membres, les 450 membres de Vie Internet, et puis pour les 2000 villes qu'on met en réseau, volontiers trouver un moyen de leur donner un accès au contenu et aux formations que tu pourras faire, parce que je pense vraiment que c'est absolument essentiel. Cela dit, ces collectivités sont complètement décalées dans les obligations liées au numérique qui leur tombent dessus, quoi. Et en plus, avec un coût de mise en œuvre de la politique publique numérique extrêmement coûteux. Alors, je ne parle pas de toutes celles qui ont accès à tous les projets européens. Je rappelle que le RGPD, donc RGDP, hein, tout ça, alors les acronymes en plus, anglicisme, acronyme, on les vire. Hein. Donc, ça veut dire règlement général sur la protection des données personnelles. Non, c'est quoi? C'est une directive européenne qui nous tombe dessus, n'oublions pas. Pardon? Un règlement européen qui nous tombe dessus et qu'on doit appliquer. Alors, ce n'est pas une décision des Français, de la France et des collectivités françaises. C'est une obligation européenne. Alors, d'accord. Mais je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Ah non, 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 mais je ne la juge pas. Là, je suis en train de parler des méthodes démocratiques. Parce que la dernière rupture à laquelle je voudrais arriver, fracture, si tu veux, ou rupture d'ailleurs, c'est la fracture démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, on a le marché avec, il y a une fracture culturelle, américaine quand même, fortement américaine, états-unienne, à tout point de vue, avec une régulation mondiale, dirigée par le marché américain et par l'ONU, un peu, qui court derrière. Donc déjà, l'État essaye de régulariser des états de fait externes et internes. Et en plus, voilà, je suis pas, encore une fois, excusez-moi, je peux peut-être un peu virer, c'est pas contre, c'est pour que j'essaye d'argumenter, puisque tu m'as chargé de le faire, en quoi ça pose des problèmes, où est la fracture, etc. Ben, voilà, c'est tout ça qu'on doit aborder. Et c'est vraiment la fracture démocratique, c'est un vrai sujet. parce que je voudrais citer un exemple qui est émergent, mais qui commence à prendre et qui pose la question des expérimentations qui sont faites, notamment que tu as cité par la MAIF, qui a un intérêt d'assureur, puisque derrière, elle va faire payer des assurances, toutes mutuelles qu'elles soient, et je les aime bien, on travaille avec eux, hein, mais elle va faire payer des assurances pour te protéger contre tout ça, parce que les assureurs, ils sont vent debout, là, ils ont trouvé une mine. Derrière, la question de la propriété des données. Nous, ça fait 20 ans qu'on dit, avant que tout ça n'arrive, petit à petit, Google, machin, etc., on les a vus monter, et on a dit aux collectivités, aux États successifs depuis le gouvernement Jospin, 16 gouvernements, en comptant évidemment les remaniements, etc., mais 16 nouveaux ministres, machin, chargés, tu vois, tous les jours, donc pour décider qu'il fallait trouver un moyen de mettre le citoyen au centre. Alors, on nous l'a dit partout, tout le monde dit qu'il faut mettre le citoyen au centre. Le citoyen, il est excentré totalement de ces sujets aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on accepte de dire. Parce que si on n'ouvre pas la parole avec nos élus locaux, si on produit de la peur par tout ce que je viens de dire, les langages, les trucs, tous les freins qui émergent, on n'y arrivera pas. Parce que les élus locaux ont un pouvoir de freinage énorme. Et je les respecte, je les connais très bien. Mais le frein, il est clair. Il est, je suis consciente de tout ça parce que je vis sur le terrain, je vois ça. Et il y en a certains qui ont réagi, je termine là-dessus pour le moment, qui ont réagi en faisant des instances participatives sur, alors pas sur la donnée, mais sur les usages de services publics, de l'Internet et du numérique, de l'Internet citoyen et du numérique urbain. Je fais cette distinction personnellement que vous comprendrez, mais si on peut peut-être la détailler si vous voulez. Eh bien, il y a notamment à la ville du Mans, le CLIC, le Conseil local de l'Internet citoyen. C'est assez marrant parce qu'il a été monté par un élu d'opposition d'ailleurs, qui est conseiller municipal au numérique. Alors, sachez qu'au numérique, d'ailleurs, ce n'est pas le mot, ils sont toujours aux technologies, à l'innovation, à quelque chose, le numérique, voilà. Et on a à l'opposé, dans la taille des villes, comment ils l'ont appelé, métropolitain de la métropole européenne de Lille, le conseil métropolitain au numérique de la métropole européenne de Lille. Et des conseils comme ça locaux, on en a de plus en plus qui sont en train d'émerger, où la question éthique, philosophique, citoyenne, démocratique est posée avec les citoyens eux-mêmes, dans toute leur, dans tout ce qu'ils sont, et en quittant cette histoire des personas, qui est une erreur absolue des typologies de citoyens, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être élu, chef d'entreprise, responsable associatif et parent.
Bien. Alors, Florence, tu as sorti la sulfateuse. Audacity, l'État, l'Europe, Google, les GAFA, tout le monde en a pris pour son grade. Moi, très clairement, je ne veux pas suivre sur un truc que tu as dit. Ce serait l'idée de laisser croire comme tu l'as fait, de dire en gros, ici, on imagine, on réfléchit, on fait des trucs bien sympas, mais en fait, fracture numérique, machin. Alors. Je veux que tout ça, on le mette dans la réflexion et pas qu'à côté, il y ait des gens qui nous disent « Non, mais vous ne vous rendez pas bien compte », choses comme ça. Je vais donner juste deux exemples. Cette loi pour une république numérique, elle intègre par exemple des choses autour de la transparence des algorithmes. C'est une proposition qui a été issue directement de la consultation. D'ailleurs, c'était assez compliqué de l'intégrer parce qu'elle n'était pas exprimée de la manière dont un juriste l'aurait fait. Mais ok, je veux bien entendre que ben, il n'y a eu que 30 000 personnes qui ont participé, c'est quand même pas beaucoup. Il n'y a eu que des experts, on est resté entre nous. Ouais. Il y a beaucoup de lois récentes où il n'y a pas eu 30 000 personnes qui ont participé. Enfin, tu vois, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le sujet de la fracture numérique autour de la data, moi, je vais te citer, de la donnée, par contre. C'est latin, hein, data, donc ça va, ça passe. Hein. Je n'irai pas sous l'échafaud direct. Alors, un exemple simple auquel on a été confronté récemment. Les classements, faut-il ou pas? Il y a un certain nombre de ministères, notamment au ministère de la Santé, qui sont terrorisés par le classement du point sur les classements des hôpitaux. Et donc l'éducation nationale est en train de dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils puissent sortir des classements des écoles, parce que vous allez nous mettre à plat 30 ans de politique de mixité sociale. D'accord? Ils le font pour les lycées de manière assez intelligente, qui est un indicateur de valeur ajoutée. En gros, c'est On peut discuter de l'indicateur 100 fois, mais ils ne font pas exactement un classement brut. Voilà, il y a un retravail qui est fait. Et alors, ce truc-là est hyper intéressant parce qu'on a des débats sans fin avec le politique là-dessus, en disant, à votre avis, la transparence qu'on pourrait faire, à qui va-t-elle bénéficier ? Parce qu'il s'avère qu'aux Pays-Bas, il y a depuis 25 ans le quotidien national qui publie chaque année le classement des écoles. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à dire qu'est-ce que ça a produit. Et on s'est rendu compte que ce que ça avait produit, c'est qu'en gros, ceux qui sont les plus favorisés aujourd'hui, ils n'ont pas besoin des données pour savoir que telle école, c'est un peu moyen. Parce qu'ils connaissent les gens qu'il faut, parce qu'ils ont un réseau amical, enfin, ils sont bien connectés socialement entre eux. Et que finalement, de dire « je ne veux pas de classement », ben, c'est peut-être aussi une manière d'empêcher le droit équivalent à tout le monde, tu vois, d'avoir l'information. Alors, je ne te dis pas pour autant que c'est parce qu'on va mettre des données en ligne que tout le monde va être capable de les analyser et de dire « oh là là, il ne faut pas mettre mon enfant là ou là ou là ». Mais c'est juste de se poser, et c'est moi ça que j'aimerais bien qu'on essaye de faire dans les prochaines années,